Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
C'est l'avant-dernière émission de cette année avec au téléphone Bernard Medioni et en studio Marie-Noël Tranchant et Dominique Borde. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Nous pensons en ce début d'émission à Guy Marchand qui nous a quittés. Bernard Medioni, vous l'avez rencontré ?
Alors non, je n'ai pas rencontré, mais j'ai vu comme tout le monde ses films, je l'appréciais comme chanteur. Il commence sa carrière avec Boulevard du Rhum, un joli film de Robert Enrico, aux côtés de Brigitte Bardot et de Lino Ventura. C'était le dernier survivant de la distribution de Garde à vue, oui, qui vient de partir après Romy Schneider, Lino Ventura, Michel Serrault et Pierre Maglon. Et puis par ailleurs, il était étourdissant dans Tendre Poulet, où il fait un policier séducteur à toute main qui improvise une rumba avec Catherine Alric avant de connaître un triste sort. Il était aussi très émouvant dans Coup de foudre de Diane Curis, oui, où le film s'achève sur ses larmes parce qu'il se rend compte que la femme qu'il a épousée préfère les femmes, et ça donne une très jolie fin. Il y a une anecdote concernant son premier film qui est Boulevard du Rhum. Brigitte Bardot à l'époque ne faisait pas des baisers de cinéma, faisait un petit peu plus que des baisers de cinéma. Guy Marchand a une scène avec elle où elle l'embrasse et il dit « Ah, mais quand je le cite, hein, bien sûr, quand je me faisais faire un détartrage par Bardot, je n'arrivais plus ensuite à dire mon texte. Ouais. » Et ça résume bien le personnage, sa truculence, son authenticité, un personnage très chaleureux, immortalisé par Nestor Burma, également à la télévision.
Alors, j'ajouterais tout de même pour les gens d'une autre génération qui s'est fait connaître en 65 en chantant avec une voix modulée la Passionata.
La Passionata,
et c'est comme ça qu'on l'a découvert à ce moment-là, avant qu'il fasse du cinéma. Ouais.
Bon, et bien nous pensons à Guy Marchand en cette émission, et nous commençons par nous avons trois films, deuxième volet, Trois Mousquetaires, titré Milady, Winterbeek et Wonka. Ouais. Commençons par Milady Martin Boublon avec François Civil, Vincent Cassel et Romain Duris. Je tenais absolument à voir, moi, le film pour le procès de Milady de Winter à huis clos et l'exécution par le bourreau de Béthune, évidemment. Et peine perdue, il a dit c'est le diable et le diable ne meurt pas, hélas. Alors on aura peut-être Milady 2, Milady 3, Milady 4, quand les effets spéciaux remplacent le scénario, quand la post-production l'emporte sur le tournage. Si vous ne comprenez rien à la bande-annonce qui va suivre, ce n'est pas grave. Effets spéciaux, musique assourdissante, mousquetaire qui se déplace, colt en main, comme dans un western. Il paraît que nous sommes au XVIIe siècle. Allons-y voir.
Que vous vouliez sauver, mais Constance Bonacieux.
Où est-elle? Je sais que c'est vous qui l'avez enlevée.
Quel dommage que vous ne vouliez travailler pour moi.
Qu'avez-vous fait d'elle?
Vous me paierez cette offense.
Il me dira où elle est ou je jure de le tuer.
Prends garde, D'Artagnan. Cette femme t'a envoûté.
Nous sommes des tueurs, D'Artagnan, que cela vous plaise ou non.
Que chaque hérétique du royaume sache ce qu'il en coûte de défier le roi.
Mousquetaire, vous êtes soldat pour mourir. Je vous emmène là où on meurt.
Et c'est lui le traître.
Je ne suis pas l'homme que vous croyez.
Un seul geste et je vous tue.
Si vous me tuez, vous ne saurez jamais où est Constance.
Ça Ça, c'est du dialogue. Il y a deux bonnes surprises. L'apparition d'Alexis Michalik au siège de La Rochelle et puis toujours l'autorité d'Éric Ruff de la Comédie-Française dans le rôle de Richelieu. Pour le reste, c'est à vous, j'ai tout dit. Oui. Dominique Borne.
Oui, oh ben, on reprend les mêmes et on continue, d'autant que les deux films ont été tournés en continuité, donc c'est la même chose, mais avec cette fois-ci un personnage beaucoup plus central qui est Milady, joué par la méphitique Eva Green, alors qui se défoule, qui devient quelqu'un de beaucoup plus sensuel, amoureuse même de D'Artagnan, amoureuse mais avec un poignard dans la main tout de même. Enfin bon, elle séduit mais elle peut tuer aussi et elle peut détruire. Là, elle est fidèle un petit peu à la Défense. Pour le reste, les duels sont bien peu académiques. Et il y a un spectaculaire siège de La Rochelle auquel on ne comprend rien d'ailleurs. C'est un peu dommage. Et, ben, c'est important de dire que les protestants étaient avec les Anglais, ça on n'entend pas beaucoup. Bon, c'est historiquement, mais l'histoire a un peu d'importance. C'est vrai. Le style, ben, c'est le western d'époque, comme disait Christophe. Hein. Voilà, l'image est très sombre, toujours, ce qui finit par être très gênant. C'est filmé à l'esbrouf, beaucoup d'effets, peu de dialogue, de l'action, toujours de l'action, encore de l'action, pas de panache, du mouvement. Est-ce que ça fait un film de KPDP, le mouvement ? Maintenant, il faut autre chose, justement. Il faudrait voir les bons vieux films avec Jean Marais pour s'apercevoir qu'il y avait tout de même un arrière-plan et d'autres choses. Donc, même si les mousquetaires ont pris un coup de jeune, le ravalement vaut
pas les acteurs.
Façon, non, les acteurs sont très vieux.
Le ravalement vaut pas tellement la peine. Il valait peut-être mieux faire de la reconstitution. Voilà. Et d'autant plus qu'on mêle vraiment l'histoire intime avec l'histoire, avec la véritable histoire qui est bien malmenée, si bien qu'on finit par ne plus suivre ni l'un ni l'autre. Donc c'est assez maladroit comme mise.
Alors Marie-Noël, oui, Marie-Noël, vous avez aimé.
Alors oui, à ma grande surprise, parce que
Là, on tombe des nues, Dominique et moi.
Parce que, après le premier que nous avions trouvé vraiment sombre, terreux, statique, monumental, sans charme et sans panache, là, au moins, on galope. C'est déjà une première bonne chose qui fait... Ah si, il y a des chevauchées superbes. Oui. Ah, oui, c'est Marion Louras qui emporte les chevaux. Et c'est un magnifique dresseur très connu dans le cinéma, parce qu'il fait toujours des cascades à cheval somptueusement. Non, non, c'est très beau, c'est galopade, c'est chevauché, quand on part souvent filmé en vue
aérienne. Avec un drone.
Oui, avec un drone, parce que... Mais c'est pas...
Souvent, c'est toujours la même chose.
Ah, bah, un peu répétitif, oui.
Ah bah oui.
Et puis
oui,
alors,
oui.
Bon, là où je suis d'accord, le bémol majeur, si je puis dire, c'est évidemment qu'on est loin de Dumas, c'est on prend Donc, quand on aime Dumas, comme nous tous, c'est forcément décevant. Mais, d'un autre côté, ils s'amusent.
Ils s'amusent. Est-ce qu'ils amusent
ça? Eh bien, là, oui. Parce qu'il y a du rythme. Parce que enfin, ça galope, ça ferraille, c'est beaucoup plus aéré, mouvementé, riche en intrigues, en sous-intrigues, en intrigues politiques, trahison, complot, en intrigues privées, vengeance, jalousie, etc. Tout ça se mêle d'une façon foisonnante. Pas du tout toujours compréhensible, mais ce n'est pas grave, on s'en fiche.
Bernard,
on s'en fiche pas.
Bernard, tranché entre les deux.
On se retrouve à La Rochelle, on se retrouve à Londres, des duels de femmes, des fresques, non pas des duels de femmes, mais des complots, des ententes étonnantes qui n'ont rien à voir avec Dumas. Et quelques répliques assez drôles, comme ce Gascon qui vient de Gascogne équatoriale, ce que j'ai trouvé assez drôle, parce que comme ça, il explique son passeport de couleur.
Bernard.
Moi, je serais mitigé, donc je serais entre mes deux camarades. C'est-à-dire que j'ai préféré le premier volet. Néanmoins, ici, l'amitié est plus présente. L'amitié entre les quatre mousquetaires. L'amour, si l'on peut dire. Mais c'est vrai qu'ici, parce que l'amour entre Bonacieux et D'Artagnan est quand même moins présent que dans le premier volet. Mais l'amitié entre les quatre mousquetaires est plus prégnante. Et ça donne à cette nouvelle adaptation une cohérence et une jovialité assez salutaire. Je serais moins sévère que mes camarades sur la mise en scène. La mise en scène de Martin Bourboulon, je trouve qu'elle a quand même pas mal de vitalité et de majesté, et qu'elle prend le haut du pavé dans cet épisode. J'ai aimé le passage à La Rochelle. qui est bien sûr un fidèle au roman, mais c'est un épisode rugueux, ardent, copieux, qui tire son épée du jeu. Il y a deux inventions aussi que je trouve pertinentes. La conspiration contre le roi, qui n'est pas celle de Richelieu, mais d'un autre personnage. C'est totalement absent du roman, mais ça c'est plutôt bien mené avec une belle scène à la fin qui va clore cette invention et le sort réservé à Constance Bonacieux, qui est tout à fait différent de celui du roman. Il y avait eu l'invention dans le Lester où c'était Milady qui étranglait Constance avec un chapelet. Là, on a le droit à autre chose, mais ça surprend par sa violence et par une certaine vraisemblance. Maintenant, il y a deux fautes que je trouve très graves. Milady perd sa nature maléfique parce qu'on lui trouve des excuses pour son comportement et en plus, on lui évite de verser le sang à deux reprises. Alors qu'elle verse le sang, elle fait deux assassinats dans le roman et là, hop, les deux assassinats passent à la trappe et ça, c'est quand même une grave faute. L'importance démesurée accordée aux mousquetaires de couleur Hannibal, qui a existé historiquement, oui, mais qui n'est pas dans le roman. Pourquoi ça? Est-ce qu'ils ont voulu céder à une mode un peu wokiste? On peut se demander, on peut se demander ce que ça vient
faire. Mais la réplique en fait justice, justement. Il fait précisément allusion. Je suis de Gascogne équatoriale.
Oui, mais enfin, son importance n'est pas un ornement. Il a un rôle vraiment important et peut-être un peu démesuré. L'épilogue est farfelu, l'intrigue parallèle au sujet de la sœur d'Aramis, alors oui, de ses amours subreptices, est amusante mais factice. Je suis d'accord avec mes camarades sur la musique qui n'est pas toujours sans inspiration mais qui est beaucoup trop présente. Et oui, les dialogues ne sont pas démunis mais manquent quand même d'esprit. Je dirais pour finir que grâce à Alexandre Dumas-Père et avec ou sans Milady de Winter, on se laissera volontiers compter Fleuret.
Voilà, et moucheté.
Exactement.
Ce que je voulais dire, si vous voulez retrouver Alexandre Dumas, c'est un peu de publicité, vient de sortir Le Vicomte de Bragelonne en Pléiade, en un seul volume. Et ça, je crois que c'est un très joli cadeau de Noël à faire. Voilà, nous passons à Winterbeek de Alexander Payne. C'est un film de Noël, on est en 1970, en hiver. Il y a Monsieur Ouman, qui est professeur d'histoire ancienne dans un prestigieux lycée d'enseignement privé pour des garçons dans la Nouvelle-Angleterre. Et puis alors, il est pédant, il est bourru, personne ne l'aime, ni les élèves, ni ses collègues. Et puis, il est prié de rester sur le campus, il est collé lui aussi, au moment de Noël, pour surveiller la poignée de pensionnaires qui sont eux-mêmes consignés. Alors, il en reste bientôt qu'un, qui s'appelle Angus, qui est un élève de première, qui est doué, insubordonné, insolent. Et heureusement, il y a Marie, la cuisinière des bonheurs, qui reste aussi au collège pour Noël, mais ça, pour une autre raison, elle n'est pas collée, elle est juste triste. On écoute la bande-annonce.
Monsieur, je comprends pas.
Ça saute aux yeux, en effet.
Mais je peux pas être calé.
Oh, ne soyez pas modeste, monsieur Kuntz, vous le pouvez tout à fait.
Chaque année à Barton, les étudiants, les enseignants et le personnel quittent le campus pour 2 semaines de vacances pour Noël. Mais il y a toujours quelques malheureux qui n'ont nulle part où aller pour les vacances. Ils sont consignés.
Monsieur Hanam.
Bonsoir, Marie.
Vous vous coltinez le babysitting de Noël cette année, alors comment ça se fait?
Tu sais qu'il a fait ses études ici?
Oui, c'est pour ça qu'il sait comment s'y prendre pour nous faire souffrir un maximum. Oh. Moi qui croyais que tous les nazis étaient cachés en Argentine.
La ferme, Tully. Vous venez de décrocher une retenue, jeune homme.
Être ici avec vous, c'est déjà être en retenue pour l'éternité.
Espèce de petit con, je vous rajoute une heure de colle. Vous croyez que j'ai envie de jouer les babysitters avec vous? Non, j'ai prié pour que votre mère réponde au téléphone, ou que votre père débarque en hélicoptère ou en soucoupe volante.
Mon père est mort.
Vous ne dites pas à un enfant qu'on a laissé en plan pour les fêtes de Noël que personne ne veut de lui. Ça tourne pas rond chez vous?
Y a personne ici, ok? Vous vous mêlez pas de mes affaires et je me mêle pas des vôtres. La plupart de vos élèves ne peuvent pas vous saquer, les profs non plus. Mais vous le savez, ça.
Je trouve que le monde est compliqué et plein d'amertume et on dirait que le monde pense la même chose de moi. Je crois que nous avons ça en commun.
Je ne crois pas avoir connu de vrai Noël en famille comme ce soir. Merci, Marie.
De rien.
L'histoire ne se réduit pas à l'étude du passé. C'est aussi une explication du temps présent.
Quand vous parlez comme ça, avec un soupçon de pornographie, on comprend tout ce que vous dites.
J'aimerais lever mon verre
à mes deux improbables compagnons.
Angus !
T'essaies de mater dans mon décolleté ?
Non.
Oui.
Vous allez me faire virer. Ce sera votre Rubicon. Je vous interdis de franchir le Rubicon.
Winterbreak.
Oh merde ! Monsieur Adam !
Winterbreak d'Alexander Payne, que vous avez rencontré, Dominique Borne.
Oui, je l'ai rencontré quand il était à Cannes, quand il présentait Mr. Schmitt, je l'avais interviewé. Mais j'ai retrouvé son esprit. Moi, je lui avais dit, après avoir vu Mr. Schmitt, et ce film-là se rapproche beaucoup de Mr. Schmitt avec Jack Nicholson, parce que c'est un peu la rédemption des proscrits. Un prof raté, un élève perturbé, une cuisinière qui a perdu son enfant. Eux-mêmes sont aux bancs de la société, ils sont tristes, ils n'ont rien. Et à eux trois, ils vont s'offrir une parenthèse. Pas vraiment le bonheur, mais des petites voix. Et ces petites voix nous touchent, finalement. Par petites touches, comme ça, ça c'est très bien vu. Je crois qu'Alexander Payne, qui a retrouvé donc le style de M. Schmitt, qui racontait l'histoire d'un homme qui perdait tout, il partait en retraite, sa femme mourait, il s'apercevait qu'elle l'avait trompé, il va voir sa fille qui va se marier, mais qui ne l'aime pas, il est seul. C'est l'homme nu. Et il a pas son pareil pour décrire des hommes nus. Et là, on a un homme nu, de la même façon, nu psychologiquement parlant. Hein. Et pour raconter la solitude. Et ça, il la raconte bien, avec Giamatti, qui est son acteur, d'ailleurs, qui est dans plusieurs de ses films. Et c'est assez touchant, c'est bien aux couleurs des années 70, d'ailleurs, d'une couleur un peu terne. Il y a ce collège assez miteux, et ce directeur assez idiot et assez autoritaire. Donc il n'a rien pour lui, et pourtant ils vont trouver peut-être une ouverture, ils vont trouver quelques instants de voix, oui. Et ça, c'est bien marqué, c'est bien noté, c'est bien incarné, c'est bien filmé. J'aime bien ce qu'a fait Payne, et ce qui m'avait laissé penser à l'époque, je lui avais dit, vous devriez adapter Simenon, parce que dans les romans de Simenon, comme dans les films, certains films inspirés de Simenon, on s'intéresse à la calme médiocrité des personnages. Et lui n'a pas son pareil pour ça. Et il le fait très bien. Il pourrait vraiment faire de très bonnes adaptations de Simenon. Donc moi, j'ai aimé le film. Ce personnage fermé dans sa solitude et ce raté qui va pas s'en sortir vraiment, mais qui va aider les autres à s'en sortir. Et c'est ça le plus important. C'est pas tellement lui, mais c'est la rédemption. C'est l'autre, en fait. Et il comprend que c'est en allant vers les autres qu'il va sortir et de sa solitude et de ses compromis et de ses blessures, surtout. Alors, il va peut-être se sauver en sauvant les autres. C'est un peu le miracle de Noël du film, qui est un film de Noël, même s'il n'en a pas tout à fait là-bas. Mais ça se passe au moment de Noël.
Absolument.
Parce que c'est à l'aube de l'année 71, après.
C'est sûr que je le verrais bien filmer les inconnus dans la maison, de Simenon.
Oui, aussi.
Je le verrais très bien là-dedans. Ouais. Marie-Noël.
Oui, je trouve que c'est un film qui a du charme. C'est Noël, c'est pas par hasard, c'est un Christmas Carol traditionnel. On n'est pas si loin de Dickens et de La vie est belle de Capra que nous évoquerons
la semaine prochaine.
Et donc, il y a cette atmosphère de Noël très particulière qui évoque à la fois la chaleur familiale, et puis c'est le temps où, justement, si on ne l'a pas, alors tout ce qui est noir apparaît beaucoup plus sombre que d'habitude. Et le film a ce mouvement très intime. Finalement, il y a un beau mouvement en trois temps. Au départ, on voit ce collège chic et snob des environs de Boston, qui a la tradition pour fond de commerce, comme le dit le professeur, et qui se vide au moment des vacances. Sauf, en effet, il y a un petit groupe. Et puis ensuite, il y a un hélicoptère qui vient les chercher, parce qu'on est quand même chez des gens très riches et des ados assez snobs. Et il ne reste plus que ce petit groupe, ce trio improbable, en effet, comme le dit le professeur, d'improbables compagnons, riche et émouvant et insolent, avec des façades très fortes qui s'est barricadé le professeur dans un humour et une fermeté, une sévérité qui laisse peu à peu filtrer une toute autre réalité. L'adolescent, c'est un rebelle insolent, mais comme très, très typé, très années 70, en effet. Ça, c'est des personnages qui osent dire des trucs à leurs profs, mais pas comme aujourd'hui, pas des réactions sommaires. Ce sont des pointes acérées. Quand on lui dit, je croyais que les nazis étaient en Argentine, ce sont des flèches très bien décochées. Et il est très brillant, très intelligent, très rebelle, et on comprend pourquoi c'est un enfant perdu en même temps. Et la cuisinière, très beau personnage aussi, ils sont admirablement interprétés.
Très
la
bien typé.
Cuisinière est remarquable, il faut nommer ses acteurs. C'est bien sûr Paul Giamatti, on l'a dit. Dominique Cessa, le jeune collégien insolent, agressif et en pleine détresse, est remarquable, et la cuisinière s'appelle Davina Joy Randolph, et elle est magnifique, de générosité, d'humanité, de dignité, de grandeur profonde, alors qu'elle est une mère en deuil.
Donc Bernard,
c'est très riche.
Oui, moi j'ai trouvé que c'était très réussi. On retrouve d'ailleurs le même ton que Nebraska, dont nous avions parlé avec Bruce Dern dans le rôle principal. On retrouve ce ton entre dérision et émotion, mais avec quand même une certaine distinction. On n'est jamais dans la facilité, dans la complaisance, et donc ce ton emporte totalement l'adhésion, comme les rapports tissés entre les différents personnages, notamment entre cet enseignant et son disciple. Alors, ça rappelle un petit peu d'ailleurs les rapports tissés entre Robin Williams et Matt Damon dans Will Hunting. Ça rappelle les rapports tissés entre le même Robin Williams et ses élèves dans Le Cercle des Poètes Disparus. Sauf que c'est vrai qu'ici, le professeur est un petit peu plus coriace dans Winter Break.
Et Gamin ne se suicide pas.
Et les gamins ne se suicident pas, contrairement au Cercle des Poètes Disparus. La musique est à la fois expressive et élégante, et on retrouve en plus des musiques de l'époque, Vénus, des Shocking Blue, qui était un tube à l'époque. On a aussi les quelques notes de la plus célèbre gymnopédie d'Eric Satie, où on a même Cat Stevens, et ça c'est vrai que cette mosaïque musicale fait un grand plaisir. Et puis cette nostalgie discrète, mariée à une délicatesse experte, font que l'ensemble possède un charme alerte. Alors maintenant, le dîner de Noël, la soirée de Noël avec la petite jeune fille n'est pas totalement réussi.
Cette saison.
Oui, cette saison, certes, mais la nièce se limite un peu à un souriant ornement. Les autres élèves auraient peut-être mérité un développement plus roboratif, même si ils sont amenés à quitter l'histoire. D'ailleurs, le revirement paternel qui permet à trois inconnus de venir passer les vacances chez lui, on peut se demander si c'est vraiment vraiment crédible. Et puis, quelques détails supplémentaires en arrière-plan sur cette époque 70-71. On montre quelques images d'ailleurs de Little Big Man, mais on en voudrait un petit peu plus pour habiller justement cette époque. Mais c'est un film qui est vraiment, vraiment réussi et qui séduit beaucoup. Et avec son professeur et son élève, on a indéniablement ici un film pupitre en son genre.
Voilà, il nous reste que quelques minutes, 2 minutes 30 précisément, pour parler de Wonka. Donc on ne va pas écouter la bande-annonce, c'est un film de Noël à voir en famille, c'est féerique, magique, tendre et sucré. On lâche tout pour se laisser porter et emporter. C'est de Paul King avec Timothée Chalamet, Kala Lane et Kingang Michael Kay. C'est la jeunesse de Willy Wonka, l'extraordinaire inventeur, magicien et chocolatier de l'univers féerique de Charlie et la chocolaterie.
Oui.
Dominique.
Ben on entre dans le train merveilleux des fantasmagories enfantines. Hein. Tout est permis, voilà, entre les fontaines de chocolat géantes, un confessionnal à ascenseur, j'ai apprécié d'ailleurs, et un magasin débordant de friandises géantes. Bon, on rêve, on sourit, on s'amuse. C'est un film de Noël pour croire au Père Noël au chocolat. En chocolat surtout. Et puis au passage, tout de même, on découvre un Hugh Grant miniaturisé, comme l'autodérision, et un Rowan Atkinson, ex-Monsieur Bean, en prêtre poursuivi par une girafe. Donc tout est permis, c'est assez drôle, ça amuse les enfants, ça peut éventuellement distraire les adultes, ça fait un film de Noël, voilà, c'est tout.
Merci.
On pense au magicien d'Oz aussi.
Oui, absolument.
Oui, Marie-Noël. C'est très mignon, c'est plutôt pour les enfants, honnêtement. Ils ont trait des girafes, enfin, ils se passent des tas de choses comme ça. Il y a des paniers de linge, des horreurs en sous-sol, et puis toute la magie aussi. Le côté comédie musicale est plaisant, il y a des bonnes scènes. Moi, évidemment, quand on a vu beaucoup de films, ce qui est mon cas, c'est un peu trop puisé de ci, de là.
Ouais, des patchwork, c'est un patchwork.
Patchwork, oui, c'est ça, dans les comédies musicales, dans les films, grands films du cinéma. Donc, on peut préférer les grands films du cinéma entiers plutôt que ces petites pastilles qui ont été découpées et lancées comme des confettis.
Vous avez que quelques secondes.
Deux personnages qui tirent leur épingle du jeu par leur drôlerie, ou Grant, vous l'avez dit, en Oompa Loompa, et le commissaire dont l'embonpoint s'amplifie au gré des chocolats dégustés avec envie. Le long métrage scelle l'union entre drôlerie et douceur, et ça c'est vrai que c'est plaisant. La réalisation possède une belle fluidité, une fière vitalité. La présentation du nouveau magasin, peut-être je trouve le meilleur moment à cause de son lustre esthétique, de sa sémillante dynamique et de sa dextérité humoristique.
Voilà.
La musique laisse malheureusement...
Eh bien là, nous entendons la musique du générique. Merci Bernard.
Simplement qu'avec avec ce film sur la chocolaterie, on a carré sur l'image.
Très bien, merci à vous trois. Merci Alexis Luminil, François Dieudonné, Philippe Malpeuch et Camille Meyer pour la réussite technique. La semaine prochaine, nous nous retrouvons pour célébrer Noël au cinéma. Ça fait un peu marronnier, mais ça ne fait pas de mal. D'ici là, Marie-Noël Tranchant, Bernard Médionnier et Dominique Borne se joignent à moi pour vous souhaiter un très très joyeux Noël. N'oublions pas ceux d'entre vous, ceux d'entre nous qui sont hospitalisés, malades et seuls. C'est à vous que nous pensons d'abord et je vous embrasse.